Le prix du baril de pétrole n'ira pas à 100 dollars, sauf si. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Je suis ravi de vous retrouver. Le prix du pétrole en bourse, le proxy du risque géopolitique actuel, du risque géopolitique d'ailleurs en général, surtout lorsqu'il se situe sur le Proche et le Moyen-Orient. Et je vois donc exploser, car je suis fin observateur, les articles de presse financière. Nous annonçons de manière certaine le prix du baril à 100 dollars, 115 et pourquoi pas 150 dollars. Chers amis, il faut savoir raison garder. Moi, je vous propose plutôt une autre approche, qui est l'approche rationnelle. L'approche, bien, analytique. Passons en revue tous les facteurs fondamentaux d'influence du prix du pétrole. Vous savez, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'affrontement armé au Proche-Orient, entre Israël et le Hamas, Iran-Israël, les production cuts de l'OPEP, enfin surtout de l'Arabie Saoudite, parce qu'au sein des 12 pays membres de l'OPEP, certains ne baissent pas leur production. Vous ajoutez tout ça et vous obtenez un pétrole à 87 dollars, à peine 7 dollars au-dessus du prix considéré comme étant le prix d'équilibre, mettant en équilibre demande et offre, le prix des 80 dollars, celui qui est jugé minimum acceptable par les pays membres de l'OPEP, qui au passage ne représente que 21% de la production mondiale, donc il ne faut pas non plus qu'ils s'excitent trop. Bon, tout ça pour dire qu'un pétrole à 100 dollars, il faut vraiment quelque chose. Là, je viens d'additionner toutes les contraintes d'offres, qui sont majeures, et nous ne sommes pas à 100 dollars. Donc le pétrole à 100 dollars, peut-être. Techniquement parlant, le signal n'est absolument pas donné. Parce que dans cette vidéo, je vais reprendre tous les éléments fondamentaux, tous les éléments techniques. Je vous donne mon scénario sur les prix du pétrole. Que font les traders institutionnels? Que fait l'Arabie Saoudite? Que font les États-Unis? Passons tout en revue. Qu'en pense la Chine? Où en est la consommation chinoise? Où en est le commerce mondial? Où en est... Mais la Chine, c'est le premier importateur mondial de pétrole, à un moment ou à un autre. Il faut l'intégrer dans l'équation. Et la volatilité du pétrole, le rapport commitment of traders, les flux institutionnels, tout ça va nous aiguiller. Naturellement que dans l'immédiat court terme, nous sommes soumis aux événements et au développement de l'actualité de ce que j'appellerais, pour être un peu doux, un peu soft, la relation bilatérale Israël-Iran. À partir de là, c'est le point d'incertitude à court terme. Les deux pays sont-ils ex aequo ? La surenchère, y a-t-il un risque sur les installations pétrolières en Iran? Et sinon, qu'est-ce que l'Iran va faire vis-à-vis du détroit d'Ormuz? Voilà des choses qui effectivement peuvent créer une contrainte réelle d'offre, mais personne n'y a intérêt. Vous savez que même l'Iran, depuis 2 ans, a considérablement augmenté sa production de pétrole et ses exportations de pétrole. Pourquoi? Pour faire du fric. À un moment ou à un autre, le pays ne va pas se tirer les balles dans le pied. Bon, voilà, donc on passe tout ça en vue, les amis. Donc ici, nous ne sommes pas ni sur BFM, ni sur CNews, ni sur quelconque média d'information en continu. Donc ça, tout le monde peut s'informer. Là, on va faire un travail un peu plus analytique. Le prix du pétrole n'ira pas à 100 dollars, sauf si vous voyez donc que je sais, moi aussi, raison garder et ne pas exclure tous les scénarios possibles. Alors, le prix du baril de pétrole est le proxy ultime du risque d'embrasement géopolitique au Proche-Orient. Voilà 3 parties. Première partie, concrètement, la région, la zone, le pays, y a-t-il un risque? Est-ce que le pétrole à 100 dollars peut venir de l'Iran à elle seule ou du Proche-Orient à lui seul? L'état actuel du rapport entre l'offre et la demande de pétrole au niveau mondial, car encore une fois, chers amis, la formation du prix du pétrole en bourse, au-delà de tous les articles que vous pouvez lire qui vous annoncent le prix du pétrole à 200 dollars, moi, vous savez, ça fait un certain temps, je vais avoir 42 ans et que je pratique les marchés financiers, à chaque fois qu'il y a eu un conflit géopolitique, tout le monde annonçait le pétrole, et même parfois des gens très sérieux dans des banques. Et des banques. 200, 300 dollars. Le pétrole n'y est jamais allé. Jamais. Ah oui, il a fait des incursions au-dessus de 100 dollars. Mais donc, j'aime à chaque fois qu'intervient un nouveau conflit géopolitique et que naturellement le prix du pétrole est haussier, à ce moment-là, j'aime venir en contradiction des articles qui annoncent de manière quasi certaine que le pétrole ira à 200 $. Moi, je vais apporter une contradiction, des petites nuances. Alors, c'est parti. Donc, c'est parti, les amis. On attaque. Prix du pétrole, le baromètre ultime du risque géopolitique. C'est un fait. Mais c'est un fait. Quels sont justement les faits? Les faits sont là. Alors, la petite région ici qui est sous vos yeux, qui est la couleur. Alors, c'est la région chaude du moment. Israël, l'Iran, le Hamas, très bien. Quelques ordres de grandeur. La production mondiale de pétrole, pour raisonner simplement, la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. J'arrondis. D'accord? Donc, on peut raisonner en pourcentage. La région, le Proche-Orient, le Proche et le Moyen-Orient, représentent 22 millions de barils jour. Allez, un bon 21% de la production mondiale de pétrole. Ok, très bien. L'Iran, elle, représente 3,5 millions de barils jour. Et d'ailleurs, sa production de pétrole est en hausse depuis maintenant plusieurs années. J'ai ici le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. Vous prenez l'Iran, qui est passé de 2,5 millions de barils jour en 2022 à maintenant 3,2 millions de barils jour. Donc, l'Iran a tout intérêt. C'est une question d'argent à continuer de pouvoir transporter, produire son pétrole. Pour produire son pétrole, il faut que ses installations soient en bon état. Il ne faut pas qu'elles se mangent des gros missiles. Bon, très bien. Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que pèse l'Iran? N'oubliez pas l'ordre de grandeur. La production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils le jour. Les 12 pays membres de l'OPEP, oui, plus que 12, puisque le Qatar a quitté l'OPEP en 2019, c'est 27 millions de barils le jour. Donc, déjà, tous les pays de l'OPEP, c'est 27% de la production mondiale. Mais attention, les pays de l'OPEP sont dans le monde entier. Vous en avez en Afrique, vous en avez en Amérique latine. Donc, si on revient plus précisément au Proche-Orient, l'Iran représente 3,5% de l'offre mondiale. Alors, y a-t-il un risque d'envolée du prix du pétrole? Effectivement, si par exemple des petits missiles, des drones, bon, je ne suis pas un expert géopolitique, mais tout le monde l'est actuellement à la télé, devaient se diriger vers l'Iran et frapper des installations de production de pétrole, cela mettrait en risque donc 3,5% de l'offre mondiale. Les experts géopolitiques nous disent que concrètement 1 million de barils jour serait en risque. Mais ça, c'est dans l'hypothèse d'une escalade, dans l'hypothèse où Israël viendrait frapper directement les installations en Iran. Ce que, a priori, personne ne veut, ce que personne ne souhaite, en tout cas, ni la Chine, ni les États-Unis. En général, lorsque ces deux grandes puissances sont d'accord, on peut arriver à quelque chose. Après, Israël est un pays souverain. L'Iran est un pays souverain. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se mettre sur la figure, tant pis pour eux, et malheureusement, tant pis pour nous aussi. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, imaginons, élargissons le spectre. Une surenchère, l'escalade, c'est aussi le mot à la mode, l'escalade géopolitique. Qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait imaginer que l'Iran, pour ennuyer un peu tout ce beau monde, décide de venir bouleverser les approvisionnements en pétrole. Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, l'Iran pourrait agir au niveau du détroit d'Ormuz et à ce moment-là, contraindre beaucoup de pays qui exportent leur pétrole. Et là, effectivement, ça représente beaucoup plus de production sur un bon 20% de la production mondiale. Donc, le risque est ici et un scénario. Pour moi, je vous ai remis ici d'ailleurs des données globales. Vous avez la production mondiale de pétrole, voilà, c'est 100 millions de barils le jour. L'OPEP, c'est 27. La région proche et Moyen-Orient, c'est 21%. Et vous savez que les États-Unis, à eux seuls, premier producteur mondial de pétrole, les États-Unis, c'est 21 millions de barils le jour. Les États-Unis, c'est autant que tout le Proche et le Moyen-Orient. C'est pourquoi, lorsque j'entends parler d'un pétrole à 100 $ ou au-delà, oui, il y a un risque de contrainte d'offre. Je vous rappelle, le prix est haussier si l'offre est inférieure à la demande et inversement. Mais n'oubliez pas qu'aux États-Unis, la production est sur son record historique et qu'elle ne cesse d'augmenter. et que les perspectives de production de pétrole US sont encore en hausse pour 2024 et 2025. La production est sur son record historique au Canada aussi, et dans certains pays d'Amérique latine. Donc il n'y a pas que le Proche et le Moyen-Orient. Pour avoir un pétrole au-delà des 100 dollars, il faudrait soit effectivement un embrasement général du Proche et du Moyen-Orient et la suspension provisoire de la logistique pétrolière. Là, forcément, oui, ça va être compliqué. Et si ce n'est pas le cas, et que la production et les exportations ne baissent pas, et pour l'instant, ça n'a pas baissé d'un iota. Pour un pétrole à 100 dollars, à ce moment-là, il faudrait un événement qui viendrait casser la production US. Voilà, il faudrait une autre contrainte d'offre. Mais à l'heure actuelle, si vous oubliez, si vous mettez de côté la prime de risque géopolitique, au final, le pétrole, ça fait 2 ans qu'il évolue entre 65 et 93. 65, 93, 65, 93. Et il y a un prix d'équilibre à 80 dollars. S'il y a cet équilibre à 80 dollars, c'est parce que l'OPEP, elle, a mis en place des quotas de production, des réductions de production. C'est sur un régime de volontariat. D'ailleurs, les 12 pays membres ne jouent pas forcément le jeu. Effectivement, au final, c'est vraiment l'Arabie Saoudite qui a baissé sa production. Mais en face de ça, vous avez les États-Unis qui produisent à fond. En tout cas, donc, c'est le sujet du moment. Et voilà, il faut tout à fait admettre qu'il y a un vrai risque et que le pétrole, s'il devait aller à 100 dollars, le pétrole, s'il devait à 100 dollars, alors pour l'instant, il est à 85 dollars sur le baril de pétrole US, je vais en venir tout à l'heure à l'analyse technique, s'il devait aller à 100 dollars, dites-vous bien que la dernière fois qu'il s'y est présenté, c'était au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, assez vite, le pétrole a reculé, et dans le sillage du déclenchement de la guerre en Ukraine, vous avez eu un double top ici, avec une ligne de coût à 93,50. Et donc, le marché depuis évolue dans un trading range entre 65 dollars et 93,50. Pourquoi 65 dollars? Ben, regardez, 65 dollars, c'était le prix juste avant, à l'époque, ça fait longtemps maintenant, janvier 2020, février 2020, l'arrivée de la crise sanitaire en Occident. Et donc, nous voilà, ici, vous aviez eu l'excès haussier de la guerre en Ukraine, l'excès baissier ici de la crise sanitaire, et nous voilà dans cet entre-deux. Donc, au stade actuel, le pétrole continue de balayer ce trading range et évolue donc dans une structure technique qui est davantage neutre. Maintenant, offre et demande de pétrole, la source de la formation du prix du baril en bourse, et c'est là où nous allons arriver aux choses intéressantes. Je vous ai fait un tableau récapitulatif des facteurs haussiers et des facteurs baissiers qui, mis à part la prime de risque géopolitique, s'équilibre actuellement. C'est-à-dire que lorsque je dis que cela s'équilibre, le prix d'équilibre, c'est 80 dollars. Pourquoi 80 dollars? Parce qu'à peu de choses près, c'est la médiane du range entre 65 et 95, et c'est aussi le prix que nos amis de l'OPEP jugent minimum acceptable en termes de revenus pour eux. Le prix donc oscille autour de ces 80 dollars, qui est le prix d'équilibre, et toute la hausse que nous avons depuis quelques semaines au-dessus, c'est la prime de risque géopolitique au Proche et au Moyen-Orient. Cette prime de risque, prime dans le sens où prime, c'est ce qu'on ajoute, c'est la valeur additionnelle, au prix d'équilibre. Cette valeur additive, additionnelle, bon, je vais faire deux fois la même erreur, est liée au degré du conflit géopolitique. Là, actuellement, si on en reste là entre Israël et l'Iran, c'est déjà intégré dans les cours. Si par contre, effectivement, Israël devait aller frapper directement les infrastructures pétrolières en Iran, là, c'est pas intégré dans les cours. Et minimum, on ira chercher 90-93, et si ça part complètement en sucette, bah oui, là, effectivement, on aura peut-être le pétrole à 100 dollars. Mais ça, personne ne veut ça. Mais entre le personne ne veut ça, la diplomatie, et parfois, eh bien, ça s'emballe et on quitte le champ de la diplomatie, l'histoire l'a prouvé, tout est possible. Donc, ça reste quand même un sujet chaud, et en particulier cette semaine, c'est pour ça que je voulais traiter le pétrole. Mais revenons à des choses plus classiques. La tendance du prix du pétrole en bourse repose sur un principe fondamental simple, le rapport à un instant T, et surtout le rapport prospectif entre l'offre et la demande. Le prix du pétrole est haussier si l'offre est inférieure à la demande. Le prix du pétrole est baissier si l'offre est supérieure à la demande. Le prix du pétrole est en trading range, ou à l'équilibre, s'il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Jusqu'à là, tout le monde a compris. Les raisons des attaques entre les représailles. Alors, représailles par représailles, ça c'est un sujet, je vais m'abstenir moi ici de parler, de donner mon avis géopolitique. Mais au final, les événements au Proche-Orient, voilà, on va taper dans la neutralité, ont créé un écartement au prix d'équilibre. Ok, très bien. 65, 93, 50, beaucoup se demandent pourquoi le prix du pétrole ne s'envole pas à 100 dollars avec à la fois les guerres en cours et les réductions de production de l'OPEP. Car effectivement, vous le savez, l'OPEP a mis en place, je suis ici sur le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP. Alors, lorsqu'on analyse le pétrole, vous avez deux rapports qui comptent. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, c'est un rapport chaque mois, et le rapport mensuel de l'OPEP. Les deux ont été mis à jour cette semaine. Là, je suis allé vous chercher le rapport mensuel de l'OPEP. Rappelle effectivement que l'OPEP, depuis 2022, pour contrer le ralentissement de la consommation en Occident, du fait des politiques monétaires archi-restrictives pour lutter contre l'inflation, ça nous connaissons ça par cœur, la production de l'OPEP a été réduite de 28 millions de barils jour à 26. Ok. Donc là, c'est un fait. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi, avec les guerres en cours et ces réductions de l'OPEP, le prix du pétrole ne s'est pas envolé. La raison est qu'il y a globalement un équilibre entre les facteurs haussiers et les facteurs baissiers. Certes, les conflits géopolitiques en cours et les OPEC, alors OPEC, c'est OPEP en France, en anglais, les OPEC Production Cuts sont des facteurs haussiers, car ça vient contraindre l'offre. Le conflit géopolitique, c'est souvent une contrainte prospective, ça peut être réel, mais c'est souvent une contrainte potentielle, surtout si ça dégénère. Par contre, les OPEC Production Cuts, les réductions de production des pays membres de l'OPEP, ça, c'est une contrainte d'offre réelle. Ça a été équilibré par les nouveaux records de production de pétrole aux États-Unis, qui sont un facteur, par contre, baissier pour le prix du pétrole, tout aussi puissant que les OPEC Production Cuts. En effet, les États-Unis et le Canada représentent largement davantage en termes de production que la totalité des 12 pays de l'OPEP. C'est 29% de la production mondiale États-Unis-Canada contre 21% pour les 12 membres de l'OPEP. Regardez ici la production de pétrole des États-Unis, 20 millions de barils jour en 2023, 21 millions de barils jour désormais, et les perspectives de l'offre de pétrole pour 2025, ici, aux États-Unis, c'est même encore 2% de hausse pour atteindre quasiment 22 millions de barils jour. 22% de la production mondiale de pétrole pour uniquement les États-Unis. Donc, vous voyez que, alors effectivement, si par contre il devait se passer un événement catastrophique, je ne sais pas, au Texas qui à lui seul pèse 5 millions de barils jour, et que là l'offre était contrainte, bon, bah, forcément, le prix du baril s'envole. Mais pour le moment, vous avez même aussi une hausse de la production en Amérique latine. Vous avez une hausse de la production de 7 millions à 7,7 barils jour. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui se. Alors, overall, voilà un résumé. Vous avez donc des facteurs haussiers, des facteurs baissiers qui s'équilibrent. Actuellement, il y a un déséquilibre à la hausse parce que vous avez la prime de risque géopolitique qui s'enflamme, mais qui est essentiellement prospective, car comme nous l'avons vu avant, il n'y a pas encore au stade actuel, et souhaitons que ce ne soit pas le cas, il n'y a pas de contrainte sur la production et la logistique pétrolière au Proche et au Moyen-Orient, tant qu'il n'y a pas d'attaque directe sur les installations iraniennes, ou tant que l'Iran ne décide pas de venir tout bouleverser en bloquant par exemple le détroit d'Ormuz. Bon, là aussi, pour l'instant, a priori, ce n'est pas ce que souhaitent les autorités iraniennes. Facteur haussier, donc pour le prix du pétrole, les réductions de production de pétrole de l'OPEP, et encore, attention aux dissensions entre les 12 membres. Certains, je vais vous remontrer ça, ici, lorsque vous allez dans l'offre, vous avez donc 12 pays membres de l'OPEP, c'est un peu plus loin dans le rapport, mais moi je me suis un peu tapé la lecture de tout ça, et donc vous avez ici, un peu plus bas, voilà, vous avez le tableau pour l'OPEP. Vous prenez par exemple, alors regardez comme c'est intéressant, l'Iran, elle a augmenté sa production parce qu'elle va augmenter ses exportations. Le Koweït, lui, les a baissés. Le Nigeria, lui, les a augmentés. Vous avez ici un certain nombre de pays qui les ont augmentés. Le Venezuela a augmenté de 20% sa production de pétrole. Mais au final, c'est vrai que c'est l'Arabie Saoudite, le gros du morceau, qui est passé de 10,5 à 9 millions de barils par jour. Donc voilà, mais il y a quand même des dissensions au sein des membres de l'OPEP. Bon, la prime de risque géopolitique est un facteur haussier. Les perspectives de croissance économique en Asie, Afrique et Amérique latine sont aussi naturellement un facteur haussier pour le prix du pétrole. Ça, voilà, tout le monde a compris. Et lorsque vous regardez les perspectives, alors cette fois-ci, vous pouvez aller voir les données ici de la demande, les données de la demande anticipées donc pour 2025 pour le prix du pétrole. Eh bien, en Europe, aux États-Unis, c'est complètement atone. Donc, vous avez des perspectives de consommation de pétrole en Europe, aux États-Unis, du fait de la contrainte monétaire, de la contrainte budgétaire. Donc, contrainte monétaire, c'est la politique monétaire restrictive. Contrainte budgétaire, bah, avec les dettes publiques de malade, à un moment ou à un autre, il faut réduire les dépenses. La consommation de pétrole est attendue en hausse de zéro en Occident. Par contre, regardez, voilà, vous avez quand même des taux de croissance de la consommation de pétrole attendus en Asie, en Afrique, en Amérique latine, qui sont énormes. Donc, tout ça vient s'équilibrer. Tout ça vient, au final, s'équilibrer. On est quasiment sur du 50-50 entre l'OCDE et les pays qui ne sont pas de l'OCDE. Dans les facteurs baissiers, vous avez donc la consommation de pétrole en Occident, vous avez les nouveaux records de production de pétrole en Amérique du Nord, ça je vous ai montré. Vous avez dans les facteurs baissiers aussi la contraction du commerce mondial. Effectivement, vous avez encore, et c'est en grande partie parce que le commerce extérieur chinois ne s'est toujours pas remis, n'a toujours pas repris son momentum après la fin de la politique de zéro Covid. Vous savez que l'économie chinoise a encore des difficultés, malgré le soutien monétaire et budgétaire massif. Regardez ici, le taux de croissance annuel du commerce mondial, nous sommes toujours sous zéro. Et pour être plus précis, la Chine est le premier importateur mondial. Je vous ai remis ici le taux de croissance annuel des importations chinoises. Ça a énormément de mal. Il y a eu une lueur d'espoir en fin d'année. Ça revient négatif. La Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Mais ils ont encore des difficultés structurelles à résoudre. Le consommateur chinois n'a pas récupéré confiance depuis la politique de zéro Covid. Le secteur financier, le secteur immobilier est surendetté. Il y a des difficultés. Bon, il y a eu la surconstruction. Enfin, on ne va pas parler de la Chine en détail, mais dites-vous bien que, à l'heure actuelle, il y a des facteurs qui sont baissés sur le prix du pétrole, et c'est d'ailleurs pour ça que, si vous voulez, s'il n'y avait pas, pour résumer, s'il n'y avait pas la prime de risque géopolitique, ça fait beaucoup de si, mais voilà, si nous vivions dans un monde en paix, voilà, un monde de bisounours, un monde de bisounours géopolitique, baril, il sera à $50. Bon, allez, on va dire 65, parce que si je dis 50, on va encore dire que je dis n'importe quoi. Il sera à 65, dans le bas de son range. C'est quand même pour bien mesurer que il y a quand même actuellement des choses qui font que ça pourrait s'envoler. Mais comme en face, il y a beaucoup de facteurs baissiers qui sont davantage liés au fonctionnement traditionnel du marché du pétrole, en tout cas qui ne sont pas d'ordre géopolitique, ben voilà, tout ça s'équilibre. Et puis, vous avez la spéculation institutionnelle qui, là, ça dépend, parfois ils sont à l'achat, parfois ils sont à la vente, c'est ce que nous allons regarder tout de suite. Et maintenant, passons au plan technique. Analyse technique du prix du pétrole et outil de marché pour prévoir la tendance. Alors, nous avons vu que le scénario fondamental d'un pétrole à $100 est conditionné par une mise en risque des infrastructures de pétrole de l'Iran et ou un blocage logistique du pétrole du Proche et du Moyen-Orient. Revenons désormais à la vue de marché technique. Y a-t-il un risque de voir le baril de pétrole US revenir au-dessus des $100, un prix atteint à l'époque dans le sillage du déclenchement de la guerre en Ukraine? Alors, la première approche est d'ordre chartiste, avec un marché qui décrit un trading range entre deux bornes, le support à $65 que nous avons vu tout à l'heure, la résistance à 93,50 et le prix d'équilibre à $80, le prix qui est jugé minimum acceptable par les pays membres de l'OPEP. Donc, les $65 qui étaient le prix ici avant la chute de la crise du Covid, les 93,50 qui sont la ligne de coût du double top qui a été fait dans le siège du déclenchement de la guerre en Ukraine, et donc désormais, nous sommes ici dans cette phase latérale. Alors la seconde approche, elle est d'ordre fractal. Alors moi je vous rappelle le cycle elliottiste classique, un grand marché bullish en 5 temps et une phase de correction en ABC, et pour moi donc, encore une fois, à mon humble avis, nous sommes dans cette vague B, ici, sur le prix du pétrole. Alors est-elle terminée? Donc là, long terme, vous avez eu donc les 5 temps de hausse, là c'était le pétrole négatif au printemps 2020, au moment de la crise sanitaire, vous avez eu 5 temps de hausse, une 2, une 3, une grande 3, une 4, ici qui était un beau running flat, et une grande 5. Depuis, nous sommes rentrés dans une structure en ABC, 5, 3, 5, vous avez bien les 5 temps de la vague A. Maintenant, voilà, le sujet de savoir est-ce que la vague B est terminée. Soit la vague B est terminée ici, 5, 3, et là on fait la 1 de la C, la 2 de la C, et bientôt la 3 de la C. Moi, je pense qu'en fait, nous sommes toujours dans la baie. La baie qui pourrait être un régular flat. A, B, C. Et si c'est un régular flat, ça nous renvoie à ce fameux prix pivot des 93,50. Donc, en clair, pour résumer, d'un point de vue technique, tant que la résistance à 93,50 est inviolée, il n'y a pas de signal d'envolée à 100$. Par contre, effectivement, et ça je l'admettrai, en cas de breakout haussier de la résistance à 93,50, il existera un vrai risque d'envolée du prix du pétrole vers les 100$. Et il y sera aspiré. C'est vraiment le niveau à surveiller, qui était en plus la ligne de coup de l'autre guerre, celle de la guerre en Ukraine. Donc nous en sommes là pour le moment, là dans l'immédiat. Là vous avez donc les bougies journalières, depuis le début de la semaine il n'y a pas eu d'envolée, mais nous sommes toujours suspendus à l'actualité au Proche-Orient, et il n'y a pas encore de cassure de support ici en données journalières. Alors, il y a un écart Tenkan-Kinjun ici à surveiller, mais bon, je pense que l'analyse technique court terme, on peut la mettre de côté, sachant que c'est la géopolitique qui va décider, mais en cas d'apaisement entre l'Iran et Israël, il y aura un retour au prix d'équilibre des 80$. Dans le cas contraire, le marché ira attaquer les 93,50. Alors justement, que font les institutions? Est-ce qu'on peut essayer d'être un peu plus précis? Nous pouvons regarder la mesure de la volatilité du prix du pétrole sur le CBOE, et nous pouvons aussi regarder le positionnement des traders institutionnels sur les contrats à terme pétrole. Car oui, la demande financière aux financières à travers les contrats d'options, les contrats futurs, a un impact sur la formation du prix du pétrole. Alors, je peux déjà regarder la volatilité du prix du pétrole et noter que cette volatilité est en train de faire un rebond sur ce support. Et à l'époque, lorsque la volatilité du prix du pétrole avait rebondi mi-septembre ici sur ce support, eh bien, cela avait été l'indication de l'entrée dans une phase de baisse du prix du pétrole. Donc, nous avons ici des signaux sur la vol qui tendraient à indiquer que le pire serait évité sur le prix du pétrole. Mais là encore, ce sont des indicateurs dérivés des prix, et que pèsent les indicateurs dérivés des prix vis-à-vis de l'actualité géopolitique. Mais en tout cas, c'est à noter, ce n'est pas anodin, un rebond sur ce niveau de la vol du prix du pétrole. Maintenant, que font les traders institutionnels? Vous avez pour ça le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Je suis allé donc chercher le tout dernier rapport. Alors, les données remontent malheureusement à mardi dernier, c'est-à-dire que ce sont des données qui n'incluent pas les événements qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Mais tout de même, vous avez, lorsque vous regardez la position nette des money managers sur le contrat futur WTI, un trading range, ici de position nette. Et la position nette avait tendance à remonter. Donc, tant qu'elle est en fait entre ces deux bornes, borne basse ici et borne haute, il n'y a pas d'envolée du prix du pétrole. Mais si vous voulez, ici, c'est à peu près la traduction de la résistance à 93,50 sur le prix du pétrole. Et effectivement, là, pour l'instant, cette position nette remonte. Il va falloir attendre ce vendredi pour avoir la mise à jour du rapport de cette courbe. Et ce vendredi, ce sera les données de mardi. Donc, mais au moins, ça intégrera les événements qui ont lieu donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, c'est un peu tôt pour pouvoir les utiliser. Elles sont toujours en retard, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vous en ferai le topo la semaine prochaine. Donc, retenez que au stade actuel, et malgré tous les enjeux du moment, nous sommes toujours dans une phase latérale, mais que le vrai risque d'emballement du prix du pétrole, ce serait de casser à la hausse les 93,50 pour l'instant. Ce n'est pas le cas. Voilà, chers amis, j'espère que ce topo sur le prix du pétrole en bourse, en lien avec l'actualité géopolitique, vous a intéressé. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit like, merci de vous abonner, merci à tous, merci de votre confiance, et passez une super semaine.